Nous sommes de retour aux amateurs de sport. Merci d'être là, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver en ce lundi pour amorcer la semaine. Il y a quelqu'un qui a connu vraiment un beau week-end et c'est Novak Djokovic. Novak a remporté le tournoi de Wimbledon, l'édition 2018. Une petite bourse de 3,9 millions de dollars. Et c'est quelqu'un qui a surmonté beaucoup d'obstacles dans les dernières années pour arriver justement à remporter ce tournoi. Et pour en parler, on a Hélène Pelletier au bout du fil. Salut Hélène!
Bonjour Derek.
Alors Hélène, c'est la quatrième fois que le Joker remporte Wimbledon. Il l'a remporté en 2011, en 2014 et en 2015. Mais cette année, après son élimination à Roland-Garros le mois dernier, il n'était même pas certain, lui, de participer à Wimbledon.
Écoute, il était surtout extrêmement frustré après sa défaite en quart de finale devant Cecchinato, l'Italien qui a connu évidemment une poussée phénoménale vers les plus hauts sommets avec une présence en demi-finale en Grand Chelem. Tu sais, tu as été un athlète de haut niveau, tu l'es encore, on l'est toujours, un athlète de haut niveau quelque part en nous, mais il y a une leçon qu'on apprend assez vite, et ça, c'est une des premières leçons que nos coachs commencent à nous livrer. Quand on commence à faire des choses assez importantes, qu'il y a des journalistes qui nous brandissent les micros sous le nez tout de suite après une rencontre, c'est toujours mieux d'aller prendre une douche, un bon massage, manger un tout petit peu, prendre son temps, respirer par le nez, si possible, faire le point avec son coach et avoir une mini-stratégie quand tu te présentes en conférence de presse. Parce que c'est pas à peu près le nombre de journalistes là qui se présentent dans la grande salle. Alors lui, rapidement, là, décide tout de suite en quittant le terrain, tellement frustré parce que il était sur le point d'amener ce match-là en 5-7, avait perdu les deux premières manches, gagné la troisième, était en train de prendre son élan. Il menait 5-2 dans la quatrième manche et là, perd sa concentration complètement et perd le match finalement à la quatrième manche. Joseph a fait une remontée extraordinaire. Alors, il quitte le terrain et tout de suite s'en va. Il décide lui-même dans quelle salle d'entrevue il va aller. Il va dans une toute mini petite salle d'entrevue et là, il est tellement frustré, Derek. Mais on voit le champion quand même qui est en train de renaître de par ses réactions. Moi, je déteste pas ça, le voir comme ça, parce que ça prouve qu'il est vraiment déçu, qu'il voulait gagner, que c'était à lui et tout ça. Et là, il commence à dire des trucs juste en raison de la frustration et la colère. « Oh, je ne crois pas que je vais jouer sur gazon, je vais sauter cette série. » Il est frustré. Oui. Et une semaine plus tard, il décide qu'il s'en va au tournoi de Queens. Il se rend jusqu'en finale. Il a balle de match devant Marin Cilic et finalement, dans un match extraordinaire, finit par le perdre, mais il s'est quand même donné balle de match. Il a joué 5 rencontres, 4 qu'il a gagné et la 5e qu'il aurait dû gagner. Tout ça a commencé, ça a remonté vraiment. Là où il sentait que, tu sais, son mojo, là, ça revenait. C'était au tournoi de Rome avant Roland-Garros, alors qu'il avait fait une demi-finale. Et évidemment, je viens de te parler de l'épisode, justement, à Roland-Garros. Quand même, c'est rendu jusqu'en quart. Lorsqu'on joue au meilleur des 5-7, c'est pas banal. Et là, évidemment, ben il a profité du fait que l'autre était épuisé. Mais il a fait sa place quand même. Tu sais, c'est pas toi qui décides contre qui tu vas jouer. Il y a 128 joueurs au départ. Il y a les grandes têtes de série et les autres têtes de série, les 32 têtes de série qui sont placées dans le tableau. Mais pour le reste, c'est tiré au hasard. Puis là, et ça c'est tellement important, Derek, dans une compétition comme un tournoi du Grand Chelem, il y en a 4 par année, si tu te perds en première semaine, même si tu gagnes, il y a une énergie qui n'est plus là par la suite. Et Kevin Anderson, de son côté, il a trop joué, lui, des circonstances vraiment inhabituelles avec des longs 5e sets. Toute la deuxième semaine a été compliquée, tandis que Djokovic a, dans le fond, eu un match très, très difficile. C'était contre Rafael Nadal. Et ce match-là, c'était le plus beau, c'était la plus grande référence qu'il pouvait se donner avant de se présenter en finale.
Mais Hélène, dans le cas de Djokovic, qui a quand même subi une opération majeure au début de l'année, il a 31 ans, il a ces épreuves-là. Je pense que son adversaire le plus important dernièrement, là, c'est lui-même.
Oui, parfaitement. Ah oui, ça a été extraordinairement compliqué. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il voulait revenir à un très haut niveau. D'ailleurs, petite anecdote, Derek, le chirurgien qui l'a opéré en Suisse pour son coude était invité au match. Djokovic l'a vu avant la rencontre, il l'a vu après le match également, et c'était comme un beau clin d'œil, tu vois. Mais oui, des problèmes sur bien des chapitres, des problèmes personnels. Je pense que les journalistes en ont fait grand état. Des problèmes de concentration. À un moment donné, ben, il est devenu, lorsqu'il a remporté Roland-Garros en 2016, c'est comme s'il avait tout fait. Parce qu'il a littéralement dominé de A à Z le monde du tennis de 2011 à 2016. Et à partir du moment où il gagne le titre, que c'était juste Nadal qui était capable de le gagner, il avait tout remporté. Et là, il y a eu comme une espèce de... Je ne sais pas s'il sentait qu'il avait tout fait, puis qu'il manquait de concentration ou de défi. Il a pris toutes sortes de petites décisions qui ont fait boule de neige, puis après cela, ben, on connaît les résultats, mais il voulait se remettre sur le droit chemin. Puis le problème au coude, c'est un problème qu'il traînait depuis extrêmement longtemps. Moi, je me souviens de l'avoir vu perdre un match en finale à la Coupe Rogers contre Andy Murray en 3-7, puis après un 7, il était plus capable, il arrêtait pas d'essayer de se donner, tu sais, un coup comme un lanceur qui a mal au coude, tu sais, à un moment donné, tu peux pas servir, puis à chaque fois que tu frappes un coup droit, ça te fait mal, le revers, ça va parce que tu as deux mains sur la raquette, dans son cas, en tout cas, mais c'est quelque chose qui traînait depuis longtemps, puis quelque part, aller voir frapper pendant 5-6 heures de temps dans chacun de leurs matchs, en grand chemin, en tout cas, bien souvent, c'est un peu normal, à un moment donné, que le coude en prenne un coup, mais il a réglé petit à petit. Il a mis tout le monde dehors. André Agassi, Radek Stepanek, tous ses coachs, il les a mis tous dehors. Il est allé en rechercher quelques-uns. Et je te dirais principalement que Marianne Vajda, son coach de toujours, avec qui il a tellement une relation intéressante. Quelquefois, c'est une relation père-fils. Quelquefois, ce sont deux frères. Marianne Vajda a joué. Il a eu un très bon niveau. Il était top 30. Lui, il arrivait de l'école tchécoslovaque. Alors qu'on avait beaucoup de rigueur, puis il y avait beaucoup, beaucoup de tournois en Tchécoslovaquie. Alors, les joueurs qui sortaient de là, Hanna Mendlíková, Ivan Lendl, tous ces grands joueurs, et lui faisait partie de ça. Donc, il avait beaucoup de choses à offrir à Novak. Et c'est drôle parce que Marianne Vajda, on lui a dit, vous savez que vous êtes responsable de ce titre parce qu'il est revenu depuis quelques semaines seulement aux côtés de Novak Djokovic. Puis il a dit, écoutez, je suis pas si important que ça, mais ça marche. Alors, tu sais, ça a été comme une espèce de symbiose énergie. Tout est arrivé en même temps. Tout a cliqué, puis il a fait sa place, tandis que l'autre, de l'autre côté, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Kevin Anderson.
Il était très, très nerveux, Kevin Anderson, et je vais te parler de lui dans quelques secondes, mais juste avant, là, la cérémonie, lorsqu'on a remis le trophée à Djokovic, c'était un moment qui était très émotif, il y avait beaucoup d'émotions, mais... La première fois que Novak Djokovic mentionnait, Hélène, qu'il entendait quelqu'un dans les gradins dire « papa, papa », évidemment, lorsqu'il soulevait le trophée, mais de voir son fils là, c'était quelque chose de très spécial.
Oui, exactement, parce qu'en même temps, ben on se souvient, on a fait... Je vous apprends rien, mais Novak Djokovic a failli perdre sa famille, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça allait tellement pas bien son mariage. Et donc, pour lui, son fils, son petit garçon Stéphane, qui est tellement mignon d'ailleurs, c'est très, très important. Puis on a vécu la même chose avec Roger Federer l'année dernière. Roger Federer a 4 enfants. Et on fait une permission spéciale. Alors, s'ils sont âgés de plus de 5 ans, ils peuvent regarder une partie du match dans la loge des joueurs. Ils peuvent être là, en tout cas, pour la cérémonie. Et les organisateurs ont fait, écoute, c'est un peu archaïque des fois, mais en tout cas, ils ont fait une permission spéciale pour que le petit Stéphane soit là à la remise des trophées. Et Novak était extrêmement ému. Puis même lorsqu'il a gagné son match face à Rafael Nadal, tout de suite après, on leur met le micro sous le nez du côté de la BBC, et puis il a fondu en larmes. On l'a jamais vu comme ça. Oui. On a vu bien des visages de Novak Djokovic au cours des dernières années, des beaux et des moins beaux, quelquefois lorsqu'il s'en prend à la foule ou lorsqu'il s'en prend à l'arbitre. Enfin, lorsqu'il s'en prend aussi à son équipe. c'est assez particulier, mais c'est son intensité qui fait ça, j'imagine, et chaque personne réagit de façon différente, mais... c'était effectivement très, très intéressant de voir jusqu'à quel point tout ça, c'est comme s'il avait plein d'images des derniers mois qui ont été si difficiles. C'est comme s'il revoyait tout ça, puis c'était comme un baume sur le cœur. Vraiment, ces grands tournois-là, souvent on se pose des questions, pourquoi il y a certains matchs qui sont longs, pourquoi il y a certains règlements qui ne semblent pas justes, comme Novak, on commence le match à 20h, la demi-finale contre Rafael Nadal, parce que l'autre match a duré 6h36, on ferme le toit pour avoir les lumières, on est obligé d'arrêter à 23h à cause des riverains. Mais voyons donc, ça se peut pas. Et là, on revient le lendemain, il fait super beau, mais ce match-là se termine le toit fermé. Wow. Alors, ça désavantageait Nadal, tu comprends?
Oui, oui, oui. Ouais.
Djokovic adore jouer dans des conditions parfaites, mais il fallait apparemment que les deux joueurs soient d'accord pour qu'on ouvre le toit. Oui. Honnêtement, je me dis, hey, c'est un tournoi à l'extérieur. Alors, pourquoi le toit était fermé le lendemain? Il n'y avait pas le problème des lumières? En tout cas, écoute.
Il y a un autre règlement. Il y a un autre règlement qu'on peut parler aussi, parce que c'est le règlement des bris d'égalité. Je pense que j'ai vu une chronique dans le quotidien de Daily Mail. John Lloyd, qui est un ex-joueur anglais, ex-mari de Chris Evert, une chronique où il dit que le tournoi de Wimbledon doit adopter la règle du bris d'égalité en cinquième manche, comme on le voit aux internationaux de tennis des États-Unis. Alors, c'est quelque chose qui doit changer, ça.
Oui, et le pire, c'est quoi? Le pire dans tout ça, c'est que Kevin Anderson fait partie du conseil des joueurs.
Okay.
Alors, en conférence de presse, on l'a demandé, mais n'en avez-vous parlé à un moment donné, les joueurs? Parce que ça cause vraiment un problème immense. Puis, tu as juste à penser aussi en 2010, quand John Isner, qui a aussi participé à ce long match avec face à Anderson, en 2010, lorsqu'il avait battu Nicolas Mahut, le français, 70-68. Wow. Au cinquième set, le match, Derek avait duré 3 jours.
Ouais.
3 jours! T'avais plus de bon sens, tu sais, t'avais comme 2 Frankenstein qui marchaient. Ils étaient morts de fatigue, les deux. Ça devenait comme de ridicule, épouvantable. Et les organisateurs n'ont toujours pas changé le règlement. Alors, on demande en conférence de presse à Kevin Anderson, en avez-vous parlé? Il dit, même pas. On a tellement de choses sur l'agenda. Et malheureusement, ça arrive pas souvent, une situation comme celle-là. Mais pourquoi ils l'ont pas changé? Moi, je trouve ça ridicule parce que, honnêtement, certains diront, on a marqué l'histoire. Ben oui, mais ils ont pas eu de finale non plus.
Non. Anderson, quand même, retourne chez lui avec 2 millions pour un chèque de 2 millions. Et 6 pieds et 8, moi, je l'aime bien parce qu'il a la même grandeur que moi. Mais ce que je veux savoir, là, parce que lui, avec ce résultat, il passe du 80e rang mondial au 5e échelon en l'espace des 15 derniers mois. C'est une ascension impressionnante. Il est convaincu là, qu'il a maintenant ce qu'il faut pour remporter les tournois du Grand Chelem. Tu penses quoi de lui?
Ah, ben moi, je l'ai tellement, tellement, tellement aimé. Puis c'est pas la première fois qu'il sera en finale. L'année passée au US Open, c'est lui qui s'est rendu jusque-là. Finalement, il a perdu en ronde ultime devant Rafael Nadal. Mais c'est donc sa deuxième présence en ronde ultime. Et la raison pour laquelle il avait glissé, Derek, au classement, c'est qu'il avait décidé en début d'année 2016, de se faire opérer, puis il avait mal à une cheville,
okay.
Puis il avait mal aussi, je crois, au coude, si ma mémoire est fidèle. Mais deux opérations assez importantes, donc il avait tout perdu ses points, puis il avait dû recommencer, tu sais, un peu à zéro, parce qu'il a toujours été un extraordinaire top 20, ce bonhomme. Il a toujours eu un potentiel immense, il sert bien, il bouge bien pour un grand bonhomme, mais là, il est tellement plus intense, puis il croit tellement plus. Mais ça devait pas être facile essayer d'y croire dimanche. Parce qu'il était complètement claqué. Il avait presque pas dormi dans la nuit de vendredi à samedi. Il avait les pieds complètement enflés à un point tel qu'il a été obligé de faire venir un médecin et d'aller voir un médecin le lendemain. Il était déshydraté, fatigué. Il a finalement bien dormi de samedi à dimanche, mais il aurait eu besoin de 3, 4, 5 jours de congé pour être d'attaque.
Bye.
Alors,
il était fatigué et il était nerveux aussi. Il mentionnait qu'il était nerveux aussi.
T'as peur de te faire rentrer dedans. Tu sais que t'as pas les... Puis en plus, écoute, pour la finale, il avait mal au coude. Donc, il était incapable de servir. Ça lui a pris littéralement 2 sets avant de bien sentir la balle. Il a fait venir le médecin, le soigneur. Est-ce qu'on lui a donné des antidouleurs? Je ne l'ai pas vu, et peut-être que oui, parce qu'au moins au 3e set, il a été compétitif. C'est un set qu'il aurait dû gagner. Mais avec toute son expérience, Djokovic a été capable de le retenir pour aller chercher la victoire. C'est beau quand même. Honnêtement, Novak mérite pleinement ce qui lui arrive. Il a été le meilleur de la quinzaine. C'est aussi simple que cela.
Hélène, merci beaucoup. Passe une très belle soirée, puis à bientôt.
Merci Derek, au revoir.
Bye bye. Jérémy Filosa est à la barre de Bonsoir les sportifs ce soir à compter de 20h30. Il est avec nous justement pour mettre la table après ces messages. Merci d'être là.